France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le Suaire de Turin, réimage et fausse relique. Le 13 octobre 88, le tonnerre s'abat sur le monde chrétien. Le linge, communément appelé Saint Suaire de Turin, supposé avoir enveloppé le corps de Jésus après sa crucifixion, s'est trompé de siècle. La tuile. D'autant que la science en apporte la preuve. Les trois laboratoires qui ont examiné des échantillons de tissu et qui ont effectué une datation carbone 14 sont formels et unanimes. Ce drap de lin date du Moyen-Âge et non pas de l'Antiquité, période à laquelle Jésus aurait vécu selon la tradition chrétienne. Voilà, la science a parlé. Donc, normalement, fin du débat et des polémiques entre ceux qui croient le suaire authentique et ceux qui y voient un artefact. Sauf que les tenants de l'authenticité mettent en avant des études, leurs études, qui affirment qu'il s'agit d'un drap sacré et que c'est bien le vrai. Cacher ce sein que je ne saurais voir, répond la raison face à la passion, ou la croyance contre la science, affaire sensible par excellence. Notre invité aujourd'hui, Jérôme Prieur, écrivain et cinéaste, auteur avec Gérard Mordilla de la série Corpus Christi et aussi du roman graphique Le Suaire chez Futuropolis. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Odile Conseil, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca de Nantes, réalisation Frédéric Milano.
Fabrice Drouel. Affaires sensibles sur France Inter.
C'est un morceau de tissu de 4,36 m de long sur 1,11 m de large, une étoffe que le temps a fait jaunir. Des traces de brûlure attestent de l'incendie qui a failli le dévorer en 1532. Des traces symétriques, vu que le linge était alors plié dans un coffre comme un drap. Sur cette étoffe, parsemée également de taches rouge-brun, on peut, en prenant du recul, on peut vaguement distinguer quelque chose qui ressemblerait à un corps humain de face et de dos tête bêche. Il est aujourd'hui conservé dans la chapelle Guarini de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, solidement protégé dans une longue châsse en verre blindé et feuilleté, une sorte de sarcophage supposé lui éviter toutes sortes d'agressions, y compris chimiques et biologiques. En de rares occasions, on le sort pour une ostension, selon le terme consacré. Ostension, qui veut dire montrer, et qui attire des millions de pèlerins venus du monde entier. Exemple ici, dans le journal de France 2, en 1998.
On se serait battu cet après-midi pour être dans la cathédrale de Turin, pour assister à l'inauguration par le cardinal Saldarini, archevêque de la ville, de la première ostension, c'est le terme officiel, du Saint-Suaire depuis 20 ans. Les pèlerins pourront ainsi passer quelques instants devant le tissu de lin sur lequel s'est imprimé mystérieusement le corps, le visage, les mains d'un homme crucifié, supplicié. Un nouveau reliquaire a été construit spécialement pour l'occasion, réglé par ordinateur, l'atmosphère qui y règne est constante. Le Saint-Suaire baigne dans un mélange gazeux inerte et surtout ininflammable.
L'année précédente, le drap est pour la deuxième fois à échapper à un incendie qui s'est déclaré dans la cathédrale. Encore une décharge émotionnelle pour les croyants qui en ont vécu bien d'autres avec ce tissu, car il a fait couler tellement d'encre. Il est à l'origine de milliers de publications et suscité tant de tumultueux débats que son histoire mérite d'être contée. Bien. Mais quand débute-t-elle exactement cette histoire? Pour les partisans de l'authenticité, les croyants, pas de doute, par définition, elle commence dans les années 30 de notre ère. Le pitch est simple. Un homme est crucifié en Palestine occupée par les Romains. Il s'appelle Jésus et dit être le roi des Juifs, ce qui lui vaut condamnation et supplice de la croix. Voilà. Plus de 40 ans plus tard, les quatre évangélistes, Marc, Matthieu, Luc et Jean, selon l'ordre d'apparition de leur texte, en tiennent la chronique. Mais ils n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont été témoins de rien. Non. Ils transmettent un récit. Il s'agit pour eux de s'imposer face aux autres sectes juives concurrentes, d'asseoir la popularité de Jésus, devenu le Christ, et de son message. L'évangile est un texte de propagande. D'ailleurs, évangile veut dire bonne nouvelle. À ceci près que les turiféraires du christianisme naissant ne sont même pas d'accord entre eux. Le récit de la crucifixion dans l'évangile, selon Jean, est différent de celui des trois autres, car il est le seul à mentionner qu'un soldat romain donne le coup de grâce au supplicié d'un coup de lance. Un détail qui a son importance. Puis le même Jean raconte la mise au tombeau de Jésus.
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate l'autorisation d'enlever le corps de Jésus. Pilate le permit. Ils vinrent donc l'enlever. Nicodème vint aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Ils prirent le corps de Jésus et l'entourèrent de bandelettes avec les aromates, selon la coutume funéraire juive.
Au contraire de l'évangile de Jean, ceux de Marc, Matthieu et Luc mentionnent tous les trois un linceul dans lequel Joseph d'Arimathie place le corps du supplicié. À partir de là, le suaire aurait voyagé et ses tribulations suscitaient nombre d'hypothèses plus ou moins fantaisistes, en tout cas jamais confirmées par la moindre source sérieuse. Il aurait d'abord été conservé à Jérusalem. Puis la légende le trouve à Édesse, aujourd'hui en Turquie, puis à Constantinople, avant de faire un saut par Athènes, puis par Paris et Liret, en Champagne. Oui, Liret, à une quinzaine de kilomètres de la ville de Troyes, où là nous rejoignons l'histoire, celle dont les sources scientifiques sont incontestables. Nous sommes en 1357 et le suaire apparaît soudain dans la collégiale de Liret. C'est Geoffroy de Charny, un chevalier issu d'une grande famille, qui l'a fondé. Et c'est à lui qu'appartient le suaire, dont les ostensions attirent les foules et aussi les aumônes. Dans ses murs, les fidèles assistent à un véritable spectacle, estiment Gérard Mordillat et Jérôme Prieur, tous deux écrivains et cinéastes, qui ont longuement travaillé en duo sur la littérature chrétienne, comme ici dans leur livre « Jésus contre Jésus ».
Le suaire n'est pas une toile que l'on contemple en silence. Au contraire, c'est en procession que l'on vient au spectacle de son exhibition. Il y a tout lieu de penser que le suaire était hissé, telle une bannière. Il faut imaginer l'effet produit par l'apparition de cette bannière à la flamme des cierges, dans l'obscurité propice de l'église. C'était le ressuscité qui sortait de la nuit du tombeau. Les fidèles en avaient pour leur argent, si l'on peut dire.
Mais cette mise en scène suscite des froncements de sourcils de la part des autorités religieuses qui n'y voient que superstition, idolâtrie, blasphème, comme en témoigne un mémoire adressé au pape par Pierre Darcy, l'évêque de Troyes. Le chercheur Nicolas Sarzo, docteur en histoire médiévale et spécialiste du sujet, l'évoque sur France Culture dans le cours de l'histoire.
Là, on a une source extraordinaire, hein, ce long mémoire de Pierre Darcy sur l'apparition de cette image, qu'on n'a pas du tout pour d'autres suaires. J'ai cité plein de suaires pour lesquels on n'a vraiment pas le quart du tiers de ça. Là, on a vraiment des choses extrêmement précises où on nous explique que le prédécesseur donc de Pierre Darcy, qui s'appelait Henri de Poitiers, avait fait face à l'apparition de cet objet, qu'il avait fait une enquête, qu'il avait pu montrer qu'il s'agissait d'une image fabriquée. Il nous dit qu'un artisan l'a faite de manière très subtile, avec talent, et que cette image avait là encore été faite pour gagner de l'argent et que donc il ne pouvait pas être montré en tant que suaire du Christ.
Les suaires, en vérité, car l'époque est propice aux reliques qui se multiplient comme des pipins. Avec Jésus, on ne compte plus les morceaux de la vraie croix, supposément celle sur laquelle Jésus a été crucifié, qui permettrait de remplir un navire, selon le mot du réformateur protestant Jean Calvin, qui raille toutes ces superstitions. Et n'oublions pas les clous disponibles au kilo, les couronnes d'épines dont la vraie de vraie, a été rapportée des croisades par Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, et installée à Paris à la Sainte-Chapelle, puis à Notre-Dame, tout cela sans compter la Sainte-Lance qui a transpercé le côté du supplicié, la Sainte-Éponge, imbibée de vinaigre qu'un soldat romain présente à Jésus pour étancher sa soif. Et passons sur la multitude d'os, de crânes, de dents et de tous les éléments de l'anatomie humaine aptes à susciter l'adoration et à insuffler le sacré. Le père dominicain, Georges Durand, s'en faisait l'écho sur France Culture en décembre 79.
Évidemment, la première des reliques, c'était tout ce qui avait touché au Christ. Il y a une relique célèbre, et je crois qu'il est très débattu, c'est le Saint-Suaire, par exemple. Mais tout de suite, ils ont essayé de retrouver le rabot, comme on dit dans le style méridional, la varlope de Jésus-Christ. Puis les souliers du Jésus-Christ. Puis alors, il y a eu même la relique du Saint-Prépuce. C'est pas rien, ça, il faut le faire. Du Saint-Nombril. Et puis des deniers de Judas. Enfin, vous comprenez, tout le contexte, tout est devenu relique. C'est du western, les reliques.
Dans une Europe ravagée par la peste, minée par les guerres, le peuple des fidèles cherche en effet le réconfort dans ces reliques qui peuvent, sait-on jamais, faire des miracles. Pour le puissant de l'époque, Aristo ou Empourpré, posséder une relique permet de sanctifier un lieu de culte et de conforter son pouvoir. D'où l'inflation de suaire, car outre celui de Liré, on en rencontre au cours de ce XIVe siècle à Compiègne, Cahors, Cadouin, Carcassonne, Besançon, pour ne citer que quelques-uns. Mais revenons à celui de Liré, qui se distingue des autres, parce que l'évêque de Troyes interdit l'ostension, estimant qu'elle expose les âmes faibles au péril d'idolâtrie. Ce qui arrive aux oreilles de Clément VII, pape d'Avignon, qui tranche l'affaire, comme le détaille dans la revue L'Histoire, Odile Cellier, universitaire à l'Institut catholique de Paris, spécialiste du suaire.
Le pape autorise les ostensions du suaire, mais lui refuse les honneurs liturgiques dus à une relique approuvée, et exige que le public soit averti, au moment de la plus forte affluence, à haute et intelligible voix, toute fraude cessant, que ladite figure ou représentation n'est pas le vrai suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, mais qu'elle n'est qu'une peinture ou tableau du suaire qu'on dit avoir été celui du même Seigneur Jésus-Christ.
Cette directive a-t-elle été appliquée? On l'ignore. Mais l'histoire continue. En 1453, une certaine Marguerite de Charny, petite-fille d'un certain Geoffroy de Charny, vend le linceul au duc de Savoie, désireux de sanctuariser la chapelle de son château de Chambéry. Et en 1506, miracle! Par la grâce du pape Jules II, qui autorise le culte public de ce morceau de tissu, celui-ci devient une véritable relique, le saint suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, et non plus une vulgaire peinture. Le tour est joué, les pèlerins affluent, les rois font des tours, François Ier, Anne de Bretagne, Philippe Ier d'Espagne, toutes ces têtes couronnées dont le pouvoir s'appuie sur la religion catholique ne se font pas prier pour s'incliner devant la sainte confection. Mais 26 ans plus tard, la chapelle qu'il abrite est ravagée par les flammes. En fondant, le métal cause d'importants dégâts mais laisse l'empreinte du corps intacte. Enfin, en 1578, le suaire est transféré à Turin, dans la nouvelle capitale de la Maison de Savoie. Il y devient le saint suaire de Turin, exhibé lors de somptueuses ostensions, au moins jusqu'au XVIIIe siècle, où l'esprit des Lumières qui souffle sur l'Europe éloigne des fidèles et les clercs de l'adoration des reliques, dont l'authenticité devient suspecte. La raison commence à l'emporter sur la passion. Le suaire tombe peu à peu dans l'indifférence, fichant la paix à tout le monde. Mais ce tissu-là est pugnace, la preuve. En 1898, à l'occasion des 400 ans de la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin, du 50e anniversaire de la Maison de Savoie et du 24e du Royaume d'Italie, on organise dans la grande ville italienne une méga exposition d'art sacré. Pour l'occasion, le suaire est exhibé et un avocat, féru de photographie, Secondo Pia, est autorisé à installer son matériel dans la cathédrale et à prendre des clichés du linge présentés dans une châsse. Pia s'enferme alors dans le laboratoire qu'il a installé chez lui, et là, stupeur. Je restais pétrifié, confessa-t-il. Épisode relaté ainsi par Gérard Mordillat dans son roman Ecce Homo.
Pia découvrit le visage d'un homme barbu, aux yeux clos, aux cheveux longs, à la bouche douloureuse. Mon Dieu, gémit-il, sentant ses jambes flageolées. Pia étouffait, son cœur allait jaillir de sa poitrine. Il assistait à une apparition du Christ. Le Fils de Dieu lui faisait face, c'était son visage. Malgré toutes les avanies subies par le suaire avant d'arriver à Turin, l'image sacrée était demeurée intacte. Elle avait traversé le temps, les orages et le feu. Il était si ému en sortant la plaque du bain de révélateur pour la laver à l'eau claire qu'elle faillit lui glisser des mains. Il la rattrapa in extremis. Le Christ s'était fait photographier.
Et voilà que le suaire sort de l'oubli et fait les gros titres à la une. Pensez donc, c'est bel et bien le linge qui a enveloppé le corps de Jésus. Le négatif de la photo fait apparaître une image avec tous les détails du corps. Un corps supplicié mais bizarrerie. C'est une image qui a toutes les caractéristiques d'un négatif dont il serait impossible de tirer un positif. En résumant un peu hardiment, on pourrait dire ceci. Personne n'étant capable d'expliquer comment cette image est apparue, négative ou positive, c'est donc un miracle, et c'est donc bien le suaire qui a enveloppé Jésus. Comme ça, tout le monde est content. Oui, jusqu'à ce que des esprits éclairés, donc scientifiques, physiciens comme historiens, viennent rectifier le tir.
Your own Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers, someone to care.
Vous écoutez Affaires Sensibles sur France Inter. Aujourd'hui, le suaire de Turin, vraie image et fausse relique.
Affaires Sensibles, Fabrice Drouel.
Avec les photos du suaire largement diffusées dans la presse, un formidable engouement populaire renaît autour de la relique, tandis que les scientifiques, laïcs pour la plupart, se prennent de passion pour cet étrange phénomène. La thèse de l'authenticité tient alors la corde, même si l'Église observe une prudente réserve. On est presque à front renversé d'ailleurs. Une Église prudente et des scientifiques enthousiastes, le doute, si précieux pour l'intelligence humaine, semble avoir changé de camp. Il se trouve en vérité que le chanoine Ulysse Chevalier, professeur à l'Institut catholique, historien, spécialiste du Moyen-Âge et bibliographe, s'est penché avec beaucoup de sérieux sur la question. En bon historien, mettant de côté ses propres croyances, il s'applique à étudier les sources au plus près. Ainsi, entre 1898 et 1902, il publie 4 ouvrages sur le suaire qui soulèvent plusieurs questions, dont celle-ci.
Constatons tout d'abord ce fait que personne n'a cherché à élucider et sur lequel les partisans de l'authenticité du suaire de Turin font volontiers le silence. Le Nouveau Testament et les œuvres des pères de l'Église sont muets sur une empreinte que le Christ mort aurait laissée sur le linceul dans lequel il fut enseveli.
Deuxième argument. Ceux qui voient dans le linge le suaire de Jésus détaillent son cheminement depuis Jérusalem jusqu'aux mains de l'évêque de Troyes, qui le transmet donc à la famille Charny. Mais Ulysse Chevalier s'interroge. Enfin, pourquoi l'évêque de Troyes, s'il a eu à sa libre disposition une relique de premier ordre, comme aurait été le Saint-Suaire, pourquoi n'en a-t-il pas gratifié sa cathédrale au lieu de l'abandonner à un obscur seigneur champenois? Troisième point. Comment a-t-on fait pour transmettre cette relique en Occident sans munir le porteur d'une attestation en règle de son authenticité suivant l'usage? Chevalier souligne également que les héritiers de Geoffroy de Charny ont avancé des versions différentes sur la provenance du drap. Pour Geoffroy II, le fils, il était donné en cadeau à son père. Pour Marguerite, la petite-fille, Geoffroy de Charny en avait fait la conquête. Conclusion d'Ulysse Chevalier. Ces données contradictoires et vagues montrent que les premiers possesseurs, non légendaires, étaient loin d'être fixés sur l'origine de la relique ou qu'ils voulaient dissimuler sa fabrication récente. Et pour finir, l'historien se fait iconoclaste, avançant que Jésus a fait exprès de laisser une empreinte négative sur le suaire, anticipant ainsi l'invention de la photographie.
L'homme-Dieu, voulant laisser sur son linceul l'image de sa personne, a pris des précautions contre les objections, les ergotages des hommes, en n'y laissant qu'une image négative, qui aurait besoin un jour du concours de la photographie pour se montrer dans sa réalité, pour être rendue en valeur. Voilà la caractéristique de l'œuvre divine.
Pas heureux qu'il communisse sur ce coup-là. Parce qu'il n'a pas mesuré à quel point la révélation du suaire était trop belle pour être repoussée avec des arguments sérieux. Ses travaux n'ont pas apporté. En religion, quand la réalité ne va pas dans le sens du message, on tord la réalité et la fait réjouer. Ulysse Chevalier a ainsi endossé le rôle du gêneur. Il n'empêche que, pendant près d'un siècle, le suaire de Turin devient l'artefact le plus étudié de l'histoire. Et une nouvelle discipline fait son apparition, la syndonologie, qui a pour unique objet l'étude du suaire afin de prouver qu'il est authentique. Les écrits se multiplient. L'authenticité semble quasiment acquise. En tout cas, jamais officiellement reconnue par l'Église, certes, mais jamais non plus désavouée par celle-ci qui reconnaît au linceul son caractère d'objet de dévotion, ménageant ainsi la chèvre et le chou. Les propos du pape Paul VI, sur le sujet, ici en 1973, dans le journal télévisé de France 2, sont à cet égard très éloquents.
Le pape Paul VI, hier soir, a tenu, lors de sa présentation à la télévision, à rappeler à quel point il avait été ému en 1931 quand il eut la chance de voir le Saint-Suaire. Il y découvrit un visage du Christ, je cite, « si vrai, si profond, si humain et divin » qu'aucune autre image n'avait jusqu'alors fait ressentir. Nous souhaitons que cette relique conduise les visiteurs non seulement à une observation attentive des éléments extérieurs du merveilleux visage du Christ, mais à une vision plus approfondie de son fascinant mystère.
En 78, une équipe de scientifiques du projet de recherche connu sous son acronyme STURP reçoit l'autorisation d'examiner le suaire pendant 5 jours avec les moyens techniques les plus récents. Leur conclusion, rendue en avril 1981, est la suivante. L'image ne peut pas avoir été faite de main d'homme. Il est impossible d'exclure l'hypothèse que le suaire de Turin soit celui cité dans les évangiles. Que tout cela est diplomatiquement dit. Mais précisons immédiatement que la plupart des 30 chercheurs du STURP sont des croyants. Leurs leaders font en outre partie du conseil exécutif de la Guilde du Saint-Suaire, qui a pour objectif d'en défendre l'authenticité. Ce sont ces chercheurs qui suggèrent, au début des années 80, une datation au carbone 14, espérant qu'elle tranchera la question une bonne fois pour toutes, dans leur sens, genre vous l'avez bien dit. Mais leur proposition, formulée en 1982, est rejetée, car il aurait fallu sacrifier un important morceau du drap de l'ordre de 500 cm². Alors imaginez qu'il soit sacré, la bourde. Mais quelques années plus tard, la situation change. Il est désormais possible pour les labos spécialisés d'effectuer une datation sur un échantillon de 2 cm². Alors c'est décidé, on découpera 3 échantillons confiés à 3 laboratoires indépendants. L'Université britannique d'Oxford, l'École polytechnique fédérale de Zurich et l'Université d'Arizona Tucson. Quant aux membres du STURP, qui souhaitent disposer eux aussi d'un échantillon pour effectuer leur datation et qui veulent aussi choisir l'endroit du suaire où prélever le dit échantillon, eh bien on leur dit qu'ils sont bien gentils mais qu'ils n'obtiendront pas satisfaction. Et puis quoi encore? Autant dire qu'ils ne sont pas contents du tout et qu'ils vont montrer une vraie prédisposition à ne pas prendre en considération les résultats des analyses qui tombent le 13 octobre 1988. Ce jour-là, le cardinal Anastasio Balestero, archevêque de Turin, publie un communiqué.
Puisque le carbone 14 est formel, il n'est désormais plus possible de prétendre que le Saint-Suaire ait pu envelopper le corps du Christ 12 siècles après sa mort. Au Vatican, on soupçonnait depuis longtemps qu'il y avait eu supercherie, et on admet aujourd'hui à la Curie romaine avoir poussé un soupir de soulagement il y a quelques semaines, lorsque les laboratoires ont communiqué secrètement à l'entourage du pape leurs premiers résultats. Le Saint-Suaire aurait donc été tissé près de Troyes, sans doute au XIIIe siècle. Dès son apparition en Champagne, la polémique avait d'ailleurs éclaté entre le pape Clément VII et le seigneur qui prétendait avoir eu le Saint-Suaire des mains d'un croisé à son retour de Constantinople. C'est une œuvre réalisée avec beaucoup de talent, mais néanmoins avec de la peinture, ou en tout cas c'est ce que l'on suppose. Le mystère reste entier car personne ne peut encore dire comment exactement cette relique a été fabriquée.
Quoi ? Le suaire date du Moyen-Âge, n'a jamais été en contact avec le corps de Jésus ? Intolérable pour certains. Alors la datation est immédiatement remise en cause. Il y a une erreur quelque part, affirme l'historien catholique Jean-Christian Petit-Fils. Son ouvrage, Saint-Suaire de Turin, témoin de la Passion du Christ, publié en 2022, présente toutes les études scientifiques, affirme-t-il, qui sont susceptibles de remettre en cause cette datation. À savoir, 1. L'incendie de 1532 a changé la nature du tissu. La chaleur intense aurait provoqué un enrichissement du lin de 40% carbone 14, entraînant un rajeunissement du suaire. 2. Une contamination par des bactéries aurait très sensiblement perturbé la datation. 3. Les analyses ont été effectuées sur des échantillons de tissus provenant des rapiéçages effectués au Moyen-Âge suite aux dégâts causés par l'incendie de 1532. 4. On garde le meilleur pour la fin. Le tissu aurait été rajeuni par un rayonnement radioactif intense, celui-là même qui aurait déclenché la résurrection. Le travail de ces scientifiques est biaisé, ça paraît clair. Et c'est ce que le physicien Henri Brock, chercheur à l'université de Nice, appelle l'effet Pangloss, dont le principe est le suivant. Dans une démonstration, à partir du résultat auquel on veut arriver, on ne retient comme preuve que celle qui conforte ce résultat en laissant de côté toutes les autres données. C'est Henri Brock, justement, qui explique comment le suaire a très vraisemblablement été fabriqué, qu'il est un artefact. Mais d'abord, précisons que ce professeur de physique théorique est le fondateur, à l'université de Nice, du laboratoire de zététique. Quoique son nom laisse penser, il s'agit d'un très sérieux centre de recherche et d'information sur les phénomènes paranormaux ou hors normes. Un laboratoire créé avec le soutien des prix Nobel Pierre-Gilles Lejeune et Georges Charpak, autrement dit et autant dire que c'est du solide. Le suaire est donc un objet parfait pour être soumis à la zététique basée sur le doute et la vérification des informations. Laissons la parole à Henri Brock. C'était dans l'émission La Terre au Carré sur France Inter en décembre 2006.
Il y a une technique de fabrication, disons, la plus probable. Elle est très très simple, c'est on prend un bas-relief. J'insiste sur le mot bas-relief parce que c'est le relief qu'on peut retrouver dans le suaire de Turin quand on fait une reconstitution par ordinateur. C'est un bas-relief, 3 à 4 cm. On prend une toile de lin, on l'humidifie un petit peu, on la pose sur le bas-relief, on tapote avec les mains ou avec une brosse si on veut pour faire bien épouser le contour, on laisse sécher et ensuite tout simplement on prend des pigments de l'ocre, de la terre, on broie finement ça dans un mortier et on prend de la colle d'os ou de la colle de peau. Vous prenez des os de poulet puis vous les faites bouillir, ça va extraire le collagène, ça donne de la colle. On mélange les pigments avec, donc on obtient finalement le support qui va lier les pigments, on met ça dans ce qu'on appelle un tampon, c'est un chiffon avec un coton par exemple au milieu, et on vient tapoter directement sur le linge qui est posé sur le bas-relief. Sans pinceau, sans rien, on tapote au hasard complet, donc il n'y a pas de direction, il n'y a rien, et ça va reconstituer automatiquement l'image du relief qui est en dessous.
Tout cela vient confirmer ce qu'une étude minutieuse des textes disait déjà. Le corps visible sur le suaire correspond à la description que fait l'évangéliste Jean de la crucifixion. C'est lui, on le rappelle, et seulement lui, qui indique le coup de lance donné au côté du supplicié. Et il ne fait pas état d'un suaire, mais de bandelettes, ce qui n'est pas exactement la même chose. Jean précise également que le corps de Jésus est préparé selon la coutume funéraire juive. Or, jamais, au grand jamais, un juif, et Jésus l'était, n'aurait été mis au tombeau avec les mains croisées sur le pubis, comme le montre l'image du linceul. Chez les juifs, c'est impur. Jamais non plus. Le corps n'aurait été enveloppé dans un drap sans avoir été lavé de toutes les traces de sang et autres souillures. En outre, l'image du corps de face et celle de dos n'ont pas la même longueur. 2,2 m d'un côté, 1,95 m de l'autre, ce qui est assez inhabituel chez un humain. Et pourtant, la légende se porte bien, en particulier grâce aux travaux des syndonologues qui ne désarment pas et qui continuent à produire des études, à avancer de nouvelles pistes, parfois complaisamment relayés par les médias qui les acceptent pour preuve. Comme dans ce sujet du journal de France 2 en 98, réalisé à l'occasion d'une ostension et qui reprend sans recul les arguments des tenants de l'authenticité.
Le Saint-Suaire est arrivé en Europe au Moyen-Âge, apporté par des croisés. À la demande du Vatican, une étude scientifique a été faite en 1988 pour dater, grâce au carbone 14, la fameuse relique. Résultat, elle daterait du XIIIe siècle, donc bien après la mort du Christ. Résultat contesté par une partie du monde scientifique, car le tissu a connu tellement de vicissitudes, et notamment un incendie au XVIe siècle, que son taux de carbone pourrait avoir été modifié. Et puis on a retrouvé des pollens typiques de Palestine, et enfin, il y a cet argument de foi.
Si nous prenons ce qui est écrit dans les évangiles et ce qui se voit sur le Saint-Suaire, il y a une coïncidence parfaite. Cela ne peut pas être dû au hasard.
On notera l'emploi de mode affirmatif pour évoquer les faits non scientifiques et du conditionnel lorsqu'il est question de la datation carbone 14, présentée souvent comme une étude controversée, comme en témoignent les titres de livres et de la presse. Quelques exemples. L'enquête définitive, ou pour en finir avec le sueur de Turin, ou encore le sueur de Turin ne peut venir que de la résurrection, ou enfin la polémique du carbone 14, etc., etc. Concernant les tenants de l'authenticité, Odile Sellier, enseignante à la faculté de théologie de l'Institut catholique de Paris, ne dit pas autre chose dans la revue L'Histoire. Beaucoup de travaux dérapent dans leurs conclusions, qui généralement invoquent comme facteur ultime d'explication la résurrection du Christ, mêlant causalité naturelle et causalité miraculeuse. Le laboratoire de zététique, lui, emploie une expression qui convient parfaitement à la situation. C'est l'effet canard de bain en plastique, qui décrit la propension des croyances erronées à réémerger alors qu'on les pense définitivement submergées par des flots de preuves scientifiques, une sorte d'instinct de survie. Aux croyants, on peut offrir ces paroles de père dominicain André-Marie Dubory, qui s'exprimait sur France Culture en 88.
Si on découvrait que l'image du linceul n'est pas authentique, qu'elle ne vient pas de l'empreinte directe des traits de Jésus, cela n'aurait pas d'importance pour la piété, car ce visage est très beau, ce visage exprime les sentiments de Jésus dans sa passion, une certaine sérénité au milieu de la douleur, et ceci peut très bien subsister, même si on sait que c'est une création de la piété immémoriale des artistes.
Ah oui, c'est un véritable artiste, celui ou celle, qui a sculpté le bas-relief sur lequel un linge a été appliqué pour fabriquer cette œuvre. Et rien que pour cela, le sueur de Turin, cet artefact, mérite notre admiration d'amateur d'art.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le sueur de Turin, dont nous parlons avec notre invité, Jérôme Prieur. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes écrivain et cinéaste. Vous avez en particulier co-réalisé avec Gérard Mordia une fameuse série en 12 épisodes, Corpus Christi, diffusée sur Arte. Vous avez également co-signé un livre sur le sujet Jésus contre Jésus, mais aussi un roman graphique, Le Sueur, avec Éric Liberge au crayon et au pinceau. Et enfin, vous êtes très actif, vous venez de publier ces jours-ci, seul cette fois, chez l'éditeur Fario, dans la collection Théodore Balmoral, un supplément à Corpus Christi, titré Mon reliquaire, où vous revenez sur le travail accompli avec Gérard Mordia, et où les questions, bien sûr, de Jésus et des premiers récits qui racontent sa vie et celle des apôtres. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre les évangiles comme des livres d'histoire, ça c'est un postulat bien connu, mais justement, d'un point de vue historique pour le coup, que sait-on exactement de Jésus et de son existence d'abord ?
Ben pas grand-chose, c'est ça le problème. Et donc ça alimente tous les fantasmes, toutes les rêveries. On sait rien, par exemple, de son apparence physique. Ensuite, au IIe siècle, les pères de l'Église se sont affrontés pour savoir s'il était le plus beau des hommes ou le plus laid. Enfin, vous voyez, bon, on ne sait rien. On n'a aucune idée de son apparence. Alors évidemment, on sait un certain nombre de choses de sa prédication, de son rôle. On sait qu'il annonçait la fin des temps. On sait quelle sorte de juif il était. On sait qu'il a été crucifié par les Romains et non par les Juifs, comme l'ont dit certains à un certain moment. Mais en réalité, on sait peu de choses. Et donc, c'est pour ça qu'on s'accroche à cette image parce qu'elle paraît fabuleuse, miraculeuse, elle fait rêver. Et elle est belle, d'ailleurs, cette image. Et donc, dans ce livre que vous citiez, là, qui vient juste de paraître, qui s'appelle justement Mon reliquaire, je consacre un chapitre au sueur de Turin, dans lequel je dis que dans cette affaire, j'aurais pu dire dans cette affaire sensible, oui, excusez-moi,
ah bah si,
dans cette affaire, dans cette affaire, rien ne tient debout. Voilà. C'est-à-dire que je suis très frappé à vous écouter. Votre récit est très complet, très exhaustif. Je suis très frappé de voir que ceux qui l'ont défendu, comme ceux qui l'ont attaqué d'ailleurs, ont toujours pris les choses à l'envers. C'est-à-dire qu'ils se sont demandé si le sueur, c'était en fait un linceul puisque ça recouvre tout le corps, si le linceul ou le sueur était été possible. Donc, on cherche des preuves, on voit si ça correspond au scénario de la Passion dans l'Évangile de Jean, etc., etc. Avant de se demander s'il est plausible. C'est la question essentielle qu'il faut demander. Mais sauf que si on se pose cette question, toutes les hallucinations que vous avez citées deviennent invraisemblables. C'est-à-dire, prenons les choses dans l'ordre. Anthropométriquement, c'est-à-dire on mesure le corps qui est sur le tissu, qui est un corps reproduit à l'échelle, c'est un corps grandeur nature, de face et de dos. Hein. Si on prend les mesures, on s'aperçoit, vous l'avez dit, qu'il y a un écart entre la face et le dos. Ça, c'est assez bizarre.
Pour un humain, c'est bizarre.
C'est le dahu, quoi. Bon, d'une part. D'autre part, on s'aperçoit que ce personnage a des bras très très longs, quoi. Comme un grand singe, un peu, voilà. On s'aperçoit aussi qu'il a une petite tête par rapport au volume du corps. On s'aperçoit qu'il a les doigts très très longs, voilà. On s'aperçoit d'un certain nombre d'anomalies, voilà, qui auraient dû tout de suite mettre en question l'identification possible avec un personnage réel. Je parle même pas de Jésus, parce que quand on parle du suaire, on fait comme si automatiquement c'est Jésus qui est représenté, mais il y a eu des centaines de crucifiés dans l'Antiquité romaine. Les Romains n'étaient pas tendres, et donc ça pourrait être tout à fait quelqu'un d'autre. Mais refermons cette parenthèse.
On ne la referme pas, parce qu'elle est intéressante. Je la rouvre, et on reviendra.
D'accord, et puis on reviendra à mes arguments.
Exactement, absolument. Voilà. Concernant l'existence de Jésus, est-ce qu'on peut penser qu'en fait il y a une synthèse de plusieurs prédicateurs dans un contexte politique compliqué, parce qu'on a un pays envahi, occupé par les Romains, on a un pouvoir qui s'appelle le Sanhédrin, on a des résistants, les zélotes. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un entre d'une troisième voie de plusieurs prédicateurs qui auraient dit non à la résistance, non à... On ne se met pas à genoux non plus devant les Romains. Quelque chose de très politique.
Oui, mais ce dont les évangiles, les quatre évangiles sont les témoins, c'est-à-dire que ce ne sont pas des récits uniformes, univoques, qui nous présentent le même personnage. Il y a un Jésus de violence, il y a un Jésus d'amour, il y a tout ça dans les évangiles. Et donc on s'est beaucoup disputé pour savoir si Jésus, les exégètes se sont beaucoup disputés, pour savoir si Jésus était un prophète pacifique ou un zélote, comme vous avez cité. Enfin, en tout cas, ce qui est certain, c'est que pour lui, la terre sacrée, la terre élue par Dieu, la terre d'Israël, est souillée par la présence romaine, et qu'il faut se laver de cette souillure. Et donc, c'est quelqu'un qui attend et qui appelle à la fin des temps, à l'Apocalypse. Ouais. Donc ça, c'est absolument indéniable. Et puis finalement, après la mort de Jésus, la fin des temps annoncé, espéré, n'advient pas, et donc petit à petit le message chrétien se routinise, enfin il se crée une religion distincte du judaïsme qui est le christianisme, mais ça met du temps, enfin donc voilà. Et donc l'image du suaire de Turin, elle est un peu à la charnière.
Alors,
de
on y revient,
c'est bien. On y revient, voilà. Alors, il y a une raison anthropométrique, les mesures du corps, quoi. Il y a quelque chose, ce corps, voilà, ça va pas. Il y a une raison anthropologique, j'emploie un grand mot, anthropologique, vous l'avez aussi évoqué, dans la mesure où Jésus, il est galiléen, il est juif, n'en déplaise à certains au 19e siècle particulièrement, mais peut-être aujourd'hui encore, et donc... Dans le judaïsme, c'est impensable qu'un homme soit enseveli, les mains sur le pubis, se tienne le sexe, c'est absolument impensable, et c'est impensable qu'on garde un linge souillé, un linge impur. Donc voilà. Et puis troisième chose, auquel vous avez fait allusion, mais peut-être moins fortement, et qui permet de comprendre ce que dit ce grand physicien qui est Henri Brock. Troisièmement, si vous vous mettez un linge sur le visage, rien que sur le visage, je parle même pas du corps, si vous vous mettez un linge sur le visage, que vous vous mettez, je sais pas, justement, un produit qui va pouvoir s'imprégner sur le tissu, vous allez avoir une déformation de votre visage. Au lieu d'avoir votre visage tel qu'il est, il va être complètement... élargi, en tête de lune, ouais. Voilà. Et donc, Ces trois raisons suffisent, avant même de se livrer à des exercices d'exégèse approfondis ou d'imagination
religieuse.
Enfin, c'est même pas religieux, parce que ce qui nous avait beaucoup frappé avec Gérard Mordillat, en faisant les séries, en écrivant les livres, c'est que le combat, il était plutôt à front renversé. C'est-à-dire que ceux qui ont tenu à défendre Mordicus l'authenticité du suaire étaient plutôt des laïcs, quoi. Chirurgien, physicien, chimiste, photographe. Et qu'au contraire, de l'autre côté, et vous avez fait entendre le père Durand, là, j'ai noté son nom.
Je dis que c'est un front inversé.
Front inversé. Le père Durand qui dit ça très bien, mais Ulysse Chevalier qui disent non, ça colle pas avec les textes. Puis d'une certaine façon, ce qu'ils disent sans le dire, là, ils disent on n'a pas besoin de ça. Enfin, si on croit, on n'a pas besoin de preuves.
Oui, c'est ça le message principal.
Voilà, on n'a pas besoin. Mmh. Et d'ailleurs, c'est même annoncé par avance dans l'évangile de Jean, le fameux évangile de Jean, avec l'histoire de l'épisode de Thomas. Thomas n'assiste pas aux apparitions du Christ ressuscité, et donc quand il rejoint ses camarades, ses amis, les disciples, il dit je ne crois pas si je ne vois pas.
Voilà.
Et donc dans notre imaginaire, parce que il y a eu des siècles de peintures qui sont passés par là, on s'imagine que Thomas met ses doigts dans la plaie du Christ, dans le côté du Christ, et en fait non, c'est une provocation du message de Jésus ressuscité qui lui dit si tu ne crois pas, si tu ne vois pas, si tu ne touches pas, tu ne crois pas, malheureux, quoi, d'une certaine façon. Et Thomas ne le fait pas, n'accomplit pas. Il a compris le personnage littéraire créé par l'évangéliste Jean, qui est un auteur génial, s'adresse aussi à nous, s'adresse à la postérité, s'adresse à tous ceux qui n'ont pas connu Jésus. Donc je trouve que cette histoire, ce que vous nous avez raconté, là, c'est hallucinant. Enfin, c'est vraiment hallucinant. C'est-à-dire cet acharnement à vouloir croire que cette image peut être vraie. Alors, vous allez me dire pourquoi.
J'allais vous le dire. Vous pouvez répondre à des questions que je ne pose pas non plus.
Pourquoi ? Mais parce que cette image, elle est belle. Cette image, elle est émouvante.
C'est une œuvre d'art, c'est ce qu'on dit à la fin.
C'est une œuvre d'art. Mmh. Alors, je reparle de mon ami Gérard Mordillat. Lui, il pense que ça devrait être au musée de l'art brut à Lausanne. Je suis pas d'accord avec lui. Je pense que ça devrait plutôt être au musée de Cluny. Enfin, voilà. C'est vraiment une œuvre médiévale, à tel point que j'ai été très frappé de voir il y a quelques semaines le visage du Christ sculpté qu'on a retrouvé, mais il y a déjà plusieurs mois, en faisant les fouilles de Notre-Dame. Il ressemble étrangement à ce visage qu'il y a sur le suaire. Mmh. C'est-à-dire que cet homme, ce bas-relief, très bas-relief, hein, il faut que ce soit un très bas-relief, ce bas-relief représenté sur le suaire, il correspond à l'image qu'on se faisait au Moyen-Âge de Jésus. C'est un homme grand, c'est un homme... Et donc on le retrouve... C'est pas étonnant qu'on le retrouve dans toute l'histoire de la peinture.
Oui,
on peut même creuser et s'apercevoir, ça c'est un historien de l'art qui l'affirme, c'est que cette tradition de représentation de Jésus, du Christ, disons de la figure théologique du Christ, elle vient de Byzance. Et que c'est à Byzance qu'on a essayé de s'approcher de la peinture comme empreinte, comme si la peinture n'était pas une image faite de main d'homme, mais était une empreinte. Et donc, il dit aussi qu'à Byzance, on se met à représenter les corps avec des bras plus longs que nature, avec des doigts plus longs que nature.
Ça correspond,
enfin, bon, voilà,
ouais.
Voilà. En tout cas, ça correspond aussi à un moment de l'histoire de l'art et qui, comme par hasard, correspond très exactement au XIIIe siècle, au XIVe siècle.
France Inter. Affaires sensibles.
Jean Prieur, il y a un personnage que notre récit n'évoque pas, mais dont vous parlez, vous, Gérard Mordillat et vous, c'est le docteur Barbet qui, dans les années 30, a usé de drôles de méthodes pour prouver la véracité du suaire. Vous nous racontez ça?
Oui, ça me fait rire, c'est le diabolique docteur Barbet, quoi. Comme il y a le diabolique docteur Mabuse chez Fritz Lang. Le docteur Barbet, comme les physiciens, les chimistes, comme ça, qui s'intéressent au suaire, lui, il s'aperçoit pas que l'homme ou le corps crucifié représenté dont l'empreinte serait censée être reproduite sur l'ossuaire a des clous plantés non pas dans la paume de la main mais dans les poignets. Et donc il se livre à des expériences, il récupère des cadavres et ou des membres de cadavres, et sur ces cadavres ou ces membres de cadavres, il fait des expériences. C'est assez morbide, hein. Il fait des expériences et au bout desquelles il prouve que un corps qui serait accroché à la croix par la paume de la main pourrait tomber, et que au contraire le suaire a vu juste puisque les clous sont plantés dans le poignet. Voilà, et donc c'est comme ça il tire il est tellement c'est ce combat qui est à l'envers, c'est-à-dire que on veut tellement prouver que c'est possible qu'on en oublie de se demander si c'est plausible. À quelle fin? De dire voyez, le suaire c'est un portrait authentique. D'accord. De la crucifixion de Jésus, et encore une fois je répète ce que je viens de dire, c'est-à-dire que ça pourrait prouver que c'est un autre homme qui a été crucifié. Mais bon, voilà.
Alors justement, il y a eu pléthore de linceuls au XIVe siècle. Apparemment, personne ne revendiquait le sien comme le vrai, le seul, l'unique. Qu'est-ce qui change pour que celui de Turin acquiert ce statut de suaire officiel, si je puis dire?
Je pense qu'il y a le génie commercial de la famille de Jeanne de Charny et tout ça qui fait des ostensions payantes, et que il y a un succès comme ça spectaculaire du suaire de Turin comme des projections avant l'heure, et que à tel point, c'est quand même un signe très intéressant de voir que les deux évêques de Troyes, dont dépendent la collégiale, l'abbaye de Liray, Henri de Poitiers puis Pierre d'Arcy, écrivent au pape pour protester. Eux, ils pourraient se réjouir, ça fait venir des fidèles, mais ils protestent, quoi, pour dire il faut pas abuser de la crédulité de nos fidèles, il faut dire que c'est une image et que ce n'est pas une relique. Mais bon, rien n'en fait, et l'Église aujourd'hui est un peu ambiguë, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le suaire, il est conservé dans un coffre blindé dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Turin, et donc on ne l'a jamais reconnu, enfin l'Église l'a jamais reconnu comme étant une relique authentique, mais en même temps on ne dit pas que c'est juste une œuvre qui suscite la piété, la ferveur populaire. Donc voilà, il y a la phrase de Jean-Paul II, l'un des papes précédents, qui dit le suaire, enfin c'est extraordinaire, le suaire est un défi à l'intelligence. Voilà.
Et on va lui laisser le mot de la fin.
Exactement, hein, ça fait rêver.
Merci infiniment Jérôme Prieur, merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le suaire de Turin, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Ronan Mahé. Thank you.